Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023. Il est 20h et comme tous les lundis, à cette heure-ci, on joue la prolongation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont joue la prolongation. On a eu un beau week-end de football en Belgique, on a eu des gros matchs, des belles performances d'attaquants, de gardiens de but notamment. Et puis on a eu des classicos en Europe, des gros matchs de gros clubs et un gros trou hier soir pour les supporters de l'OM et pour les supporters de l'OL avec encore une fois un problème quand ça concerne les Marseillais. C'est moi. Voilà, ça me fait plaisir en tant que Parisien de le balancer. Ce soir, eh ben, on va quoi ? Ouais, c'est vrai.
Oui et non, enfin, c'est...
Quand on aime le foot.
Je ne suis pas particulièrement partisan de Marseille. Quoi,
je constate simplement que c'est souvent...
Place,
absolument.
Sa place
je constate simplement que c'est souvent quand c'est l'OM qui est concerné. Oui.
Mais on a, c'est on souvent a... dans le championnat français, non ?
Ça arrive. Énormément d'agressivité. Ouais.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On va en parler, on parlera de tout ça, mais bien sûr, on commencera par la Jupiler Pro League. Et avant tout ça, je vais bien sûr vous présenter notre plateau. Vous allez le reconnaître certainement aux sons qui vont les précéder. Et oui, vous avez déjà entendu sa voix. Il va nous gâter avec sans doute des infos croustillantes, marketing à propos du football. Vous l'avez reconnu, c'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Bonsoir à tous, bonsoir Sam. Je t'apporte une petite news Sportimize que tu as demandé la semaine dernière.
Ah 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 ! Et bien, si c'est celle à laquelle je pense, il y a quelqu'un qui a rebondi dessus aussi. C'était très bien vu, mais on va parler de ça. Et juste pour mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs, je pense qu'il s'agit d'une histoire de maillot encore, de maillot particulier.
Tout à fait, mais pas que le maillot, c'est une activation à 360 degrés, j'ai envie de dire, pour les fins connaisseurs de marketing. Et on ira du côté du classico espagnol.
On attend ça avec impatience. Présent avec nous comme la semaine dernière, quelqu'un qui était autant il était déçu la semaine passée, autant cette semaine, il doit être vraiment heureux avec le résultat de son club de cœur, les Mauves. Si vous avez bien sûr tous reconnu Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu? 5 fois, et ben c'est parfait. Oui, ça c'est vrai. Un gros match d'Anderlecht et on va en parler. Parce que on se disait un peu, ils ont une bonne tête de candidat hein, quand même. Là ils peuvent plus tellement se cacher hein. Les ambitions doivent être là. On va en parler. Un club qui n'est pas sur la même dynamique cette semaine, mais qui était si bien depuis. On va lui laisser.
Pas confondre les deux, hein.
Non. Et voilà, on va s'arrêter là.
je n'allais plus bien, je revis.
Voilà.
Ça me suffit, on va être champion.
On va passer du mauve au rouge, puisque on reçoit ce soir avec grand plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on ne nous a pas rendu visite, le plus rouge de tous nos chroniqueurs. Il s'agit de Steve Gris. Salut Steve, comment vas-tu ?
Bonjour Sam, bonjour à tous, ça fait très bien. Le Standard n'a pas fait un bon score, mais je suis très content quand même et je l'expliquerai pourquoi.
Ah, bah écoute, on est content que vous soyez quasiment tous très heureux. Et on va pouvoir parler de ça et de tout le reste dans cette émission qui, comme vous le savez, dure durera jusqu'à 20h57-58. Je pense qu'on a fait les présentations. Le menu ce soir, comme je vous le disais, la 12e journée de Jupiler Pro League. Un petit tour d'Europe. On jettera un œil aussi en continu sur le classement du Ballon d'Or. Alors, je pense pas qu'on aura le vainqueur. On aura peut-être un début de podium, puisqu'il y a déjà jusqu'à la 11e place, ça a été attribué. On verra ce qu'on aura d'ici à la fin de l'émission. Allez, un petit pronostic, tiens, avant de commencer. Henri, toi, tu vois qui? On va dire le choix de cœur, et puis...
Le choix de cœur, ça a été De Bruyne.
Mais... De Bruyne, ok. Mais tu penses que...
Je pense que ça va être Messi.
Ça va être Messi.
Champion du monde, et je pense que c'était l'apothéose de sa carrière. Et on n'y échappera pas.
Steve, toi aussi?
Comme Eden Hazard et comme Henri...
Et Ribéry
Je ne l'ai pas entendu. Mais moi, j'ai choisi Messi. Alors vous allez me dire, oui, mais Messi, d'abord, ce n'est pas sa meilleure année. Il en a déjà eu suffisamment. Oui, mais... En fait, je fais partie de ces gens qui étaient extrêmement heureux qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, non pas uniquement parce que la France a été défaite, mais parce que je trouve que pour l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du football, avoir une porte de sortie en gagnant la Coupe du Monde, c'était sa manière d'encore plus rentrer dans l'histoire et la manière dont de nombreuses générations vont le retenir. Et je pense que cela doit être encore récompensé par un nouveau Ballon d'Or, même si il joue dans un championnat inférieur. Et clairement, on voit qu'il le surpasse parce que le niveau est relativement bas. Et donc, c'est pas sa meilleure saison. Mais je pense que la symbolique qui a été imprimée cette année devrait conduire à ce qu'il ait également une symbolique du meilleur joueur.
Alex.
Je trouve ça un peu comme le Soulier d'Or, c'est un trophée en carton, c'est très symbolique en France parce que c'est eux qui l'ont inventé, mais voilà, c'est honorifique, ça ne m'inspire rien, sachant en plus que voilà, le foot reste un sport d'équipe, et que voilà, l'Argentine, un si beau pays, une si belle nation de foot, l'a gagné, c'est pas Messi qui l'a gagné, et quand on se souvient des prouesses, que ce soit du gardien, des médians, des défenseurs, de Lionel Scaloni, qui a quand même fait un miracle en tant que coach, c'est toute l'équipe qui l'a gagné, c'est pas Messi, mais c'est joli pour lui, pour sa carrière, son 8e Ballon d'Or. Oui.
Je suis d'accord avec toi, Alex, c'est vrai, c'est un sport collectif, mais on retient souvent des individus comme emblématique représentant le collectif. Si tu repenses à la dernière victoire à la Coupe du Monde de l'Argentine, tu penses à Maradona.
Avant celle-ci.
Oui, avant celle-ci, oui, non, bien sûr.
Oui, forcément.
Bon, alors, il n'était pas sur le terrain, j'ai raté. Mais non, donc il y a toujours une personne emblématique qui représente. Alors je suis d'accord qu'il y a tout un collectif derrière, mais souvent une génération qui est magnifique est représentée par un joueur porte-drapeau, et ce joueur porte-drapeau, c'est Messi, même si on est bien d'accord, il n'a pas gagné la Coupe du Monde à lui tout seul.
Pas lui tout seul. Moi, je vais faire la synthèse, je suis d'accord avec vous tous, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas un sport individuel, donc le donner à Messi, c'est honorifique. En revanche, effectivement, ce que je trouverais injuste, c'est qu'ils ne le reçoivent pas, étant donné que toutes les années où il y a une Coupe du Monde, c'est tout le temps un vainqueur de Coupe du Monde, même quand c'est pas le plus méritant sur l'année, c'est toujours le vainqueur de la Coupe du Monde qui l'emporte, Fabio Cannavaro en 2006. Cette année, peut-être que sur les vraies performances, si on regarde, peut-être que De Bruyne ou Haaland mériteraient plus.
Haaland, le fait d'aller en Première Ligue, de s'adapter,
et de marquer
un, but, un nombre record de buts depuis 25 ans, si je ne me trompe pas.
Ouais, il est...
Ça m'impressionne. Et ça m'impressionne plus que 4 buts face à Lorient, Brest, Reims et Marseille. Et alors avoir un transfert en MLS où t'es d'office la star, parce que c'est le niveau est équivalent à la D1 du Luxembourg.
Il y a aussi un truc qui est surprenant, c'est de comparer des pommes et des poires.
Ouais.
Tu mets Messi à côté d'Alan, rien que la photo.
Et surtout...
un gardien, par exemple. Je dis, l'année où. Évidemment, c'est Courtois, il est belge, je suis derrière lui, mais il fait une saison de dingue, il gagne une finale de Coupe d'Europe à lui tout seul en étant impérial dans ses buts, et on doit le comparer à
des buteurs ou à des... Tout à fait,
ouais. Mais c'est un peu le paradoxe d'un un trophée individuel dans un sport collectif, parce qu'on va... On devrait compter le nombre de défenseurs et de gardiens qui ont eu le Ballon d'Or. L'exercice avait été fait, je pense.
Il y a un seul gardien, c'était Lev Yashin, mais voilà.
On l'avait testé concernant le soulier d'or en Belgique, et en effet, il y a Prudhomme, il y a eu quoi, Mignolet l'a eu. Mais c'est vrai, on compare. Forcément, on va choisir un joueur offensif plus spectaculaire.
Ouais.
Dans la plupart du temps, et on oublie, et donc c'est ça c'est le paradoxe, évidemment,
c'est vrai. Et
qui justifie le fait qu'il y a beaucoup moins de gardiens et beaucoup moins de défenseurs qui sont récompensés dans les trophées individuels.
Mais Alain est un attaquant aussi, mais j'ai pas comparé, il va pas faire des passements de jambes, comme ça il a d'autres qualités qui sont aussi efficaces dans une équipe et dans le football. Et si tu le compares à Messi, c'est difficile.
C'est difficile. Alors moi, pour Messi, alors je suis d'accord avec toi, Alex, qu'il joue là depuis quelques mois dans un championnat qui est encore moins élevé que le championnat de France, qui était moins élevé que le championnat d'Espagne dans lequel il évolue avant. Mais j'ai vu une petite vidéo qui était très amusante. Ils ont mis en accéléré, il y a quelqu'un qui filmait Messi et puis donc tous les joueurs qui évoluent autour de lui, ils ont un peu accéléré l'image et on le voit, il marche, mais donc on voit tout le monde, donc ça amplifie la vitesse des autres qui font des allers-retours, et alors lui il fait ses 100 pas, il avance à peine, et ça l'empêche pas d'être toujours juste en fait dans son jeu, c'est ce qui est assez extraordinaire avec lui. Mais voilà, après c'est vrai que le niveau d'adversité est différent.
Il a compris peut-être qu'à son stade de carrière, il devait chercher quelque chose de moins compétitif, et on cherche à s'amuser et à mettre sa famille à l'abri, certainement. Voilà.
le fameux refrain de la famille à l'abri. Allez, on va commencer par notre première rubrique, notre Belge de la semaine. Et pour notre Belge de la semaine, honneur à Steve, voilà, qui revient. On va te demander qui tu as choisi.
C'est gentil. Alors, c'est évidemment, il y a plein de choix possibles, mais c'est vrai que moi, je suis pas mal Loïs Openda, notre Belge en Bundesliga. Et on se posait la question de savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir gérer, finalement, passer dans une si grande compétition, comment est-ce qu'il allait passer, être un buteur dans un nouveau championnat. Et force est de constater qu'il s'adapte plus que bien. Il a inscrit plusieurs doublés, il a inscrit 9 buts sur les 14 derniers matchs, il a fait 4 assists. Donc clairement, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il atteindra le prochain sommet ? Est-ce qu'il constituera bel et bien une complémentarité actuelle et une succession potentielle future à Lukaku ? On a certainement un début de réponse avec lui en ce début de l'année, et on ne peut que s'en réjouir, parce que c'est un talent qui est totalement différent, je pense, dans le système de jeu, le jeu qu'on a connu avec Lukaku, mais c'est quelqu'un d'extrêmement habile qui semble s'adapter au football de plus haut niveau, et donc réjouissons-nous.
Oui, et puis c'est rassurant dans le sens où il était arrivé un petit peu sur la pointe des pieds à Lens l'an passé. Il a fait une saison magnifique et on pouvait vraiment se poser la question de savoir si ça allait être faux paille ou
est-ce que c'était trop tôt, pas trop haute. Formidable à présent. Alors après, on va voir, on n'est qu'au début de saison, mais en tout cas, ses débuts sont extrêmement réussis au plus haut niveau.
Ouais, vraiment, bravo à lui.
Et il a été formé au Standard.
Mais c'est pour ça que je l'ai choisi.
Voyons.
Et puis il est passé par Bruges.
C'est ça. Henri, toi ?
Alors moi, j'ai choisi Vincent Kompany.
Ah !
Pour une raison simple, c'est qu'on ne brûle pas ses idoles.
C'est bien. Tu restes fidèle à tes...
Voilà, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au football belge. En tant que joueur, quand l'entraîneur, ce n'était pas convaincant. Il est parti à Burnley, à la grande surprise quand même de pas mal de monde. Il fait une saison en premiership extraordinaire, reconnue par tout le monde comme extraordinaire. Et puis là, il se retrouve en première ligue. Est-ce que la marche est trop haute ? Je ne sais pas. Est-ce que le casting n'a pas été bon dans son recrutement ?
C'est vrai que les entraîneurs apportent ce qu'ils peuvent, et puis une fois que le coup d'envoi est donné, ils ont une influence limitée, et c'est vrai que par rapport au matériel des autres coachs et du niveau des autres équipes en première ligue, ça reste toujours compliqué d'avoir une plus petite équipe. Il y en a qui réussissent à surperformer, mais bon, c'est bien, voilà, il se fait les dents et ça va lui.
Donc je lui envoie tout mon soutien.
Bon, moi je trouve qu'il a trop transféré du belge ou du belge apparenté.
C'est ça, je suis d'accord avec.
Parce que c'est certainement à titre confortable, il connaissait la valeur de ce, parce qu'il n'a pas transféré des mauvais, mais pour atteindre le niveau certainement du championnat le plus difficile, le plus compétitif du monde, il faut certainement transférer autre chose que ce qu'on connaît. Et je ne sais, me suis posé la question, quelle était la force de la cellule scouting de ce club, parce que j'étais assez étonné des transferts, et je ne suis par contre pas tellement étonné du fait qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de la Première Ligue à ce stade, parce que ça me semble un peu court, ce qui a été transféré.
Mais attention,
Benson
ne joue même plus. Mais attention,
c'est ce que je dis.
Il y a les trois derniers de Première Ligue sont les trois montants.
Mais
je pense qu'il y a, surtout dans d'autres équipes qui ont fait une mauvaise saison l'année passée, comme Everton par exemple, Il y a cette expérience de Première Ligue et c'est palpable pour leur directeur sportif, leur entraîneur ou les personnes du recrutement. La difficulté est beaucoup plus palpable que pour les équipes qui ont été un an en Premiership. Et on le remarque de plus en plus qu'il y a des ascenseurs Première Ligue et on le voit pour Leicester par exemple qui est plus loin que tout le monde en Premiership. Il y a cette expérience et c'est pas par hasard que les droits TV maintenant de la Première Ligue et du Premiership vont se vendre ensemble parce que le fossé est grandissant entre les deux,
ouais,
à tous les niveaux.
Et là ça se sent parce qu'ils ont survolé le championnat l'année passée.
Oui,
là ils sont
19.
Hein, ils ont 3 points, je pense. Si on passe, ils ont une victoire. Ils ont une victoire, je pense.
Ils ont une victoire,
ouais. Ouais.
Contre Luton.
Oui, bah, c'est Sheffield qui n'a pas de victoire du tout. Sheffield qui était 7e, qui a joué il n'y a pas si longtemps encore pour l'Europe. Hein.
Ouais, tout va très très vite.
La galaxie du Beer Scott.
Alex, toi tu nous as choisi.
Ah, la première victoire de Carol Gerhardt à Schalke 04 en Allemagne. C'était son deuxième match. Le premier était perdu la semaine dernière. Un petit rodage, on va dire. Et là, contre Karlsruhe à domicile, c'était compliqué. Ils étaient menés, ils sont revenus et ils ont gagné. Donc, chapeau. Après chapeau, une semaine, monsieur. Il prend des points et il faut espérer que ça continue et que Carol puisse un peu redorer le blason de nos entraîneurs. À l'étranger, non pas parce que leurs résultats sont mauvais, mais parce qu'il y en a proportionnellement beaucoup moins qu'avant. Et quand on voit ce que Will Steele fait en France, par exemple, il y a un grand chapeau aussi pour être dans le top de la Ligue 1 avec l'équipe modeste du Stade de Reims.
Il faut voir ce que Clément va faire.
À la différence, j'allais dire, de son...
C'est pas difficile, Clément. Quand tu coaches les Glasgow Rangers, même moi, je suis minimum deuxième en Écosse, c'est impossible de faire pire.
Et...
Il y a 8 clubs, hein.
Même s'il y en a avec 3, t'es toujours dans le top 2 en Écosse.
Enfin, je veux pas casser de sucre sur Philippe Clément, mais c'est vrai qu'il n'a pas réussi une grande saison avec l'AS Monaco, qui est 3e, je crois, même s'ils ont perdu cette saison. Il y a eu quelques petits changements, mais enfin bon. Disons que Hadi Hütter, qui lui a succédé. Hütter, pardon.
Je disais que quand on s'appelle Adolphe, qu'on est allemand.
C'est un petit peu compliqué.
Il y a une tendance à.
À mettre un L, un petit peu trop, voilà.
Qu'on est né après les années.
Téléfoot l'a fait aussi il y a quelques semaines.
On se demande ce qui est passé par la tête de ses parents, mais enfin bon, on n'est pas là.
Pour revenir à Carol Gerhardt, c'est pas un cadeau. Hein.
C'est pas du tout un cadeau, c'est dramatique.
C'est pas un cadeau. Il faut se rappeler que Carol Gerhardt, sa première expérience de T1, c'était l'année passée, en Belgique. Donc il n'a coaché qu'un an en Belgique. Alors là, après, c'est vrai, on n'a pas facilité sa préparation parce qu'il a été. On a compris qu'on allait mettre un terme à son contrat pendant la préparation, donc forcément c'était vraiment trop tard pour les clubs belges ou les clubs étrangers. Donc il était évidemment en attente, il a sauté sur une très belle première opportunité qui passait, mais il se retrouve dans un championnat qu'il ne connaît pas, avec des joueurs qu'il ne connaît pas, avec un type de compétition qu'il ne connaît pas comme entraîneur. Donc honnêtement, c'est piège pour lui, hein. Alors il est en tout début de carrière d'entraîneur, hein.
Ouais, ouais.
Donc alors on s'entend. Un piège, ça peut aussi se passer. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est une opportunité magnifique pour franchir une étape plus vite que prévu. Mais attention, évidemment, à lui, parce qu'il a potentiellement beaucoup à perdre en réputation, en crédibilité, en confiance résultant de cette expérience où tu arrives dans un championnat que tu ne connais pas, je ne dirais pas en milieu de saison, mais en tout cas en cours de saison, sans avoir fait la préparation. Hein.
Et une équipe qui est avant-dernière de deuxième Bundesliga, mais avant tout, Carol Gerhardt, pour le connaître, c'est un homme de famille aussi, c'est un homme de valeur. Il ne voulait pas, il a discuté avec le Standard, il a discuté avec Bruges, etc., brièvement, mais il n'irait pas à Anderlecht, il n'irait pas à Anvers, parce que sa famille passe avant, et Schalke n'est pas très très loin de ses origines limbourgeoises. Donc, l'un dans l'autre, c'est un bon match. Mais je ne pense pas qu'Harold y aurait été au Moyen-Orient, par exemple.
On verra. Ça dépend du. Non, je le connais pas.
Aujourd'hui, ses enfants sont jeunes. Je dis pas que ça va pas se passer absolument. Dans 15 ans.
Non, il faudrait les mettre à l'abri. Hein.
Voilà. Demandons à Axel Witsel des conseils là-dessus.
Ou à Carrasco.
Bien sûr. Quant à moi, je vais terminer par un gardien de but, celui qui a été surnommé par la DH Monsieur Penalty. Davy Roof. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas lui qui garde le but de la Gantoise depuis le début de la saison et même la saison passée. Il est sorti du placard uniquement pour les matchs de Coupe d'Europe et dès qu'on le sort du placard, il est excellent. Et là, il a encore fait une grosse prestation puisqu'il a stoppé deux pénalties dans le même match. On va en reparler tout à l'heure. C'était ses 13e et 14e pénalties en carrière et il a un ratio, accrochez-vous, de 39%. Quand on sait que normalement le ratio est entre 75 et 80% de réussite, c'est tout bonnement exceptionnel. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait face à Davy Roof a deux fois plus de chances de le louper que quand il fait face à n'importe quel autre gardien, sauf peut-être Arnaud Baudard. Et c'est une transition parfaite pour commencer à parler de la Jupiler Pro League. Et on va commencer, bien sûr, après un petit son, on va commencer par nous intéresser à ce match, la Gantoise qui recevait le Standard, un match assez fou au niveau du scénario, ne serait-ce que parce qu'on a eu trois pénaltys manqués dans le même match, trois pénaltys manqués. Arrêtez. Pardon ?
Les pénaltys
arrêtés. Oui, ça, oui. Ils ont tous été cadrés, ils ont tous été arrêtés. Et puis, un match qui était plutôt serré. Et puis, en 7 minutes, la Gantoise en a enfilé 3 au Standard. Et on est rentré à la mi-temps sur ce score. Et ensuite, malheureusement, pour le Standard, ils n'ont pas réussi à revenir à hauteur. Mais ils ont fait une meilleure deuxième période. Steve, on va te laisser, bien sûr, l'honneur.
Oui, alors, je... Là où ma vision n'est pas totalement la même en première mi-temps, je pense que le 3-0 n'est pas forcé de la Gantoise. Il faut avouer que c'était quasiment en sens unique. La première opportunité du Standard, ça a été ce pénalty qui est arrivé un peu en surprise, en cadeau. C'est le VAR qui a appelé le l'arbitre. Et donc là, ça aurait été totalement contre le cours du jeu. La Gantoise a mis une pression très très forte, mais la Gantoise est très bonne.
Ouais.
Le problème de la Gantoise, je le dis souvent, c'est que je les trouve fort inconsistants. Un peu moins cette année, mais c'est toujours le problème. C'est beaucoup, avec Vanasbroek, c'est beaucoup de haut et beaucoup de bas,
ouais,
et ce qui fait qu'ils n'arrivent jamais à atteindre, à pouvoir rester au sommet. Mais la Gantoise a complètement dominé le Standard. Si le Standard, finalement, c'était 0-0 jusqu'à ces 7 minutes de galère, c'est Baudard.
C'est Baudard.
C'est ça. Et alors, c'est là où j'étais. Donc Baudard a pris 3 buts et il a la meilleure note de son équipe dans la DH ce matin, 6,5, mais il a fait des arrêts incroyables.
Je ne sais même pas dire s'il y a un des. Je n'ai plus en tête s'il y a un des buts qui est pour sa pomme, mais je ne pense pas.
Non, il est.
Mais il a tout arrêté avant, mais attention, ce n'est pas la première semaine.
Hein. Non, c'est vrai qu'il fait une très très grosse saison.
On va y revenir peut-être que si on parlera de l'état de forme général du Standard. L'état de forme général du Standard, il dépend d'un certain nombre de choses, et notamment de Baudard qui est dans la forme de sa vie.
Ouais.
Il est vraiment dans la forme de sa vie. Attention, si vous dites qu'une équipe à un gardien dans la forme de sa vie, c'est bel et bien qu'il y a, vous laissez énormément d'opportunités aux adversaires. Et alors, je suis d'accord, vous jouez Bruges, Anderlecht, la Gantoise, c'est pas anormal que
ces équipes soient sollicitées, mais
tout de même, là, la première mi-temps, elle s'est passée exclusivement dans le camp du Standard et il a sauvé tout ce qui était possible, inimaginable, Baudard.
Ah ouais, non, il a été formidable.
Et donc, oui, le Standard a été extrêmement décevant en première mi-temps. Je ne sais pas s'ils ont été, ils ont été vraiment mauvais ou si la Gantoise était vraiment au-dessus, parce que la Gantoise imprimait un tempo très dur, ça jouait vite, ça jouait bien. Clairement, le Standard en avait plein les pieds, ils arrivaient beaucoup de mal à dégager, à jouer juste, mais parce qu'il y avait un pressing très très réussi de la part des Gantois.
Mais Oufkin s'est dit lui-même que la première mi-temps était très mauvaise et que je votais. Conscient eux-mêmes de.
Oui, mais je trouve que la Gantoise a montré simplement, a montré toute sa supériorité. Au niveau.
Ouais, technique, de niveau voilà, physique et la
plus précise. Je vais y revenir, mais je pense que le Standard n'est pas une mauvaise équipe, mais c'est une équipe. C'est une équipe moyenne.
Oui.
C'est pas une équipe du top 3, du top 4. Top 6, on en parlera peut-être, mais c'est un maximum pour moi. La Gantoise est pour moi des niveaux au-dessus. Et la première mi-temps a été emblématique de cette supériorité totale des Gantois par rapport au Standard. Alors, ils se sont bien repris en seconde période. On sait que ce qui marche avec le Standard pour le moment, il marche à l'énergie, il marche à l'adrénaline, il marche à ce qu'on appelle traditionnellement au Standard, depuis qu'il y a eu tous ces Portugais qui sont passionnés, ils marchent à la Grinta.
Yeah.
C'est vraiment ça. Mais n'oubliez pas que ils sont revenus, ils se sont battus comme des lions contre Anderlecht, contre Bruges, c'était dans leur stade.
Ouais.
Et il faut avouer que le stade a rugi. Hein. Vraiment, on sentait, même si on était devant sa télé, on entend, c'est très impressionnant, hein, ce que les cinq qui rugissent. Ils rugissent pas toujours, mais quand ça rugit, ça galvanise certainement son équipe et ça peut faire craindre, ça crée une petite tension dans l'équipe adverse. Là, c'était pas le cas. Et ils ont beaucoup mieux géré cette deuxième mi-temps. Ils ont eu un goal. Ils auraient pu, clairement, s'ils avaient converti ce pénalty...
Que se serait-il passé, c'est
ils
vrai.
Auraient pu,
et, c'est un choc psychologique.
Sans le public. Mais clairement, cette victoire, pour moi, n'est pas volée, parce que la Gantoise, sur le match, a montré clairement, dans ses bons jours, qu'elle était supérieure à l'équipe du Standard actuel.
Alex, un petit...
Tu as la Gantoise qui est candidat au titre, tu as le Standard qui est candidat au play-off 1 ou 2, en tout cas sur la sellette entre la place 6 et 10. Donc,
Le résultat n'est pas illogique.
Le rapport de force est cohérent, le match aussi. Et voilà, le Standard, il ne faut pas oublier le fond de jeu face à Bruges et face à Anderlecht. Ce n'était pas terrible. Après, à la Grinta, à l'envie, je suis le premier à les envier, je suis le premier à être jaloux de cette équipe et de cette force de caractère pour se battre. Et d'ailleurs, si Bruges se battait avec la même force de caractère que le Standard, ils ont 32 victoires sur 34 matchs. Hein.
Ce qui m'inquiète au Standard, il s'appuie beaucoup sur Alzate. Et je pense que c'est évidemment une chance de l'avoir. Mais si jamais ils n'ont pas, ça va être compliqué, je pense.
Il faut se rappeler le Standard avant le mercato, donc la fin du mercato. À la fin du mercato, ils ont pris Alzate et Dzenepo. Et heureusement, parce qu'Alzate, Dzenepo et Bodard sont les gens qui sauvent le Standard, sont les gens qui tirent les autres vers le haut, parce qu'on a vu des joueurs comme Fossi, par exemple, qui était à la ramasse au mois d'août et qui est vraiment maintenant, qui revient, qui est tiré vers le haut. Mais il y a eu, en tout cas dans la direction, un déclic en se disant mais on va jouer la descente si on ne se renforce pas sérieusement. Et là, il faut avouer, ils ont le paquet, c'est beaucoup dit, mais en tout cas ils ont transféré, ils ont paré au plus pressé, on peut dire, pour sauver ce qui pouvait l'être.
Souvent il y a une stratégie derrière, et surtout une stratégie financière de faire baisser le prix aussi. Donc les targets, ils étaient là,
mais
parfois,
s'il n'avait pas, cette équipe était d'une faiblesse vraiment incroyable. Hein.
Je pense qu'il y avait, des plans A, plan B, plan C, et Bruges a connu la même chose il y a quelques années. Ils vont chercher Vormer, Izquierdo, Guedos, les derniers jours du Mercato, et c'est les joueurs qui ont fait la différence pour être champions quelques semaines après. Donc t'as une stratégie derrière, c'est pas les contacts, ils sont pas faits le mardi soir et ils sont arrivés le jeudi matin. Donc tu avais cette volonté au Standard, je pense qu'ils étaient conscients. Mais voilà, pour pas dépenser X millions de plus, ils ont opté pour ce choix-là. Et finalement, tu partais toi-même avec un pessimisme latent en début de saison. Et avec ces trois transferts et les résultats qui suivent, l'optimisme est revenu en bord de meuse. Donc stratégiquement, c'est pas mal non plus.
On a coutume de dire au Standard, tu gagnes deux matchs, tu es sûr de jouer pour le titre, tu perds deux matchs, c'est la crise. Mmh. Et c'est vrai, là.
Et là, ça faisait sept matchs sans défaite.
J'ai entendu un commentateur.
Standard champion.
Ah non, c'est pas ça.
Non, une commentaire d'une chaîne qui a dit l'Union risque d'être champion et le Standard vice-champion. Et après les matchs contre Anderlecht et Bruges.
Calmons-nous.
Je suis tombé de ma chaise en me disant.
Qui a dit ça ?
Il y a donc des gens, des suiveurs qui sont encore plus enthousiastes que moi parce que clairement on l'a vu et je suis entièrement d'accord avec toi. Contre Anderlecht et Bruges, on joue ce match 10 fois. Je crois pas qu'on les gagne plus de 5 fois. Honnêtement, le Standard a été. La physionomie du match a très bien joué en faveur du Standard parce qu'ils ont bien géré leur temps fort. Il y a eu le public qui était là, il y a Bodard qui a tout arrêté et il y a eu vraiment... Voilà, il y a eu deux belles occasions de faire un résultat, mais s'il y a victoire d'Anderlecht ou match nul
ou match nul
de Bruges, c'est pas du tout volé. Donc ces victoires symboliques ne doivent pas cacher la réalité.
Non, et puis souvenons-nous des deux dernières saisons du Standard quand même. Je veux dire, là on est quasiment à mi-championnat, on a joué 12 matchs, il y a 30 journées de phase régulière, le Standard est 8e, le Standard, comme tu le dis, doit pouvoir, s'il reste consistant, peut-être pouvoir accrocher le top 6.
Moi c'est vraiment mon objectif en tant que supporter du Standard, avec une balancée entre réalisme et évidemment positivisme du supporter, c'est vraiment qu'ils se battent pour le top 6. J'en suis pas totalement convaincu, mais je souhaite vraiment qu'ils se battent jusqu'au bout pour le top 6. Je suis un peu rassuré parce que Attention, les écarts sont très 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 faibles. Hein. Faut pas oublier que j'étais quand même très inquiet au niveau, en me disant est-ce qu'ils vont, vu le niveau général, est-ce qu'ils vont se battre pour la descente. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se donnent très rapidement un peu d'air pour créer à la fois de la confiance et créer l'espoir après d'accrocher quelque chose. J'ai oublié un élément en disant sur les choses qui marchaient bien au standard avec la Grinta, Bodard, les supporters. Ce qui galvanise aussi, c'est que c'est la deuxième année où ils ont un entraîneur qui est un peu dans l'esprit standard. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le plus fin des tacticiens, mais c'est quelqu'un qui apporte aussi sa dose d'énergie nécessaire à ce qu'un club, à ce qu'un noyau moyen puisse atteindre un peu plus de sommet. Et je pense qu'ils l'ont eu avec Deyla l'année passée. Et je trouve que Oufkens est un peu dans ce style-là, c'est-à-dire un petit sanguin qui peut rajouter vraiment une dose de boost à un club et donner le surcroît d'énergie à une équipe qui, sinon, plafonne un petit peu.
On va parler un instant des pénaltys manqués. Le pauvre Kanga qui en loupe 2, on a dit qu'ils étaient arrêtés, et c'est vrai qu'ils ont tous été cadrés, ce sont bien les gardiens qui les ont arrêtés. Les trois d'ailleurs n'ont pas été formidablement tirés, et lui il semble tirer deux fois le même quasiment. Le deuxième, on peut toujours se poser la question quand on a loupé le premier, on se dit est-ce qu'on le tire au même endroit ou est-ce qu'on change parce que le gardien, bon là de toute façon il l'a assez mal tiré, je trouve. C'était pas assez puissant, c'était trop au centre. Vous n'avez jamais joué ni les uns ni les autres à ce niveau-là, mais est-ce que vous pensez que psychologiquement, quand on loupe deux pénaltys comme ça, est-ce qu'il va pour la prochaine fois qu'il posera le ballon sur le point de pénalty, est-ce qu'il aura les jambes qui trembleront ou vous pensez que ça passe rapidement?
Quand on tombe de cheval, il faut remonter dessus, je pense.
Lui, il est remonté, il est retombé, c'est ça le problème. C'est vrai que c'est rare d'en louper deux dans un même match.
Si tu me donnes mon avis, moi je me dis, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un qui l'a raté en tire une deuxième fois.
Mais non,
je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un qui le tire une deuxième fois. Enfin, si j'ai un problème en tant que supporter, mais enfin, je peux vivre avec le fait que quelqu'un qui le tire une deuxième fois le rate. Mais la manière, les deux étaient quand même très mal tirés. C'est-à-dire que soit le gardien part de l'autre côté et il la met. Mais si le gardien attend un peu, elle est trop faible.
C'est ça.
Elle est trop faible pour le surprendre. Donc si le gardien n'anticipe pas, en principe, il l'a. Dans les deux cas. Et donc je me dis, si ce deuxième reflète l'inquiétude légitime qu'il peut avoir, pourquoi ne pas l'avoir laissé? Qui plus est, je pense que c'était son troisième et quatrième pénalty de la saison, et il n'en a marqué qu'un. Hein, donc il faut quand même un peu se poser de questions si c'est du psychologique ou de la qualité, mais c'est pas qu'on doit forcément se dire il ne doit plus tirer des pénaltys, mais il faut vraiment penser à l'équipe.
Bon, et Rouf.
Surtout que maintenant, avec les nouvelles réglementations pour les gardiens, ils sont presque obligés d'attendre.
Ils ne peuvent pas bondir, ils peuvent pas, ils doivent garder un pied sur la ligne.
C'est vraiment bien observé. Donc
ça les. Ouais, ça les
donc stop. Il attend vraiment le dernier moment pour se jeter, mais qui doit être quand même un peu avant le contact de l'attaquant avec la balle.
Ouais.
Mais dans ce cas-là, effectivement, c'était le seul espoir pour Kanga, c'est qu'il parte de l'autre côté, quoi.
C'est ça, ouais, parce qu'il est trop centre
et trop faible.
Même si en partant de l'autre côté,
avec le pied, il peut sans doute peut-être la sortir, ouais. Et Davy Roof, quand même, c'est assez incroyable ces statistiques, monsieur penalty.
Mais tu dis, il a fait un bon match. Je sais pas s'il a fait un bon match. Les penalties, c'est un exercice à part.
Il a fait aussi de bons arrêts. Non, c'est Bodard qui a été excellent. C'était vraiment un bon match de gardien. Mais moi, je suis épaté par cette statistique, hein, quand même.
Mais c'est épatant. Ouais.
36 pénalties concédées.
Je ne sais pas si Jean-Marie, à l'époque, avait fait mieux.
Ouais, je ne sais pas s'il y a grand monde qui fait mieux que ça. Hein. Et il les a qualifiés en...
En Coupe d'Europe.
En Coupe d'Europe, il a été aussi lors d'une séance de tir au but, je crois.
Oui,
Ouais. C'est étonnant qu'il ne soit pas titulaire chaque semaine, soit Paul Nardi.
Quand il était en direct, il manquait de personnalité.
Ouais.
Et je pense que pour DG, une défense, il faut aussi, à part du talent technique, des compétences techniques de gardien, il faut une personnalité, je pense qu'il ne l'a pas. C'est ce qu'on lui reproche souvent.
Alex, un avis sur ce Davy Roof?
Oui, mais c'est un certain talent, il faut croire. Il ne joue pas des masses, effectivement, il était à Anderlecht, il était à Beveren, si je ne me trompe pas, il a traîné en Espagne aussi un moment. Mm. Voilà, c'est comme beaucoup de gardiens, je pense à Sels, par exemple, en France aussi, qui fait de très bons matchs, mais qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Donc, oui. Mais par contre, pour rebondir sur Kanga, il ne faut pas oublier que c'est un attaquant, donc tu vas plus lui donner le ballon en espérant, il marque son pénalty, il prend confiance et il va marquer d'autres buts après. Ouais. Donc il y a ce facteur-là qui joue aussi pour les attaquants.
Ouais,
où est le temps où Eric Van Meer arrivait de la défense ou Gordan Vidovic pour botter un pénalty en pleine lucarne et employer en force.
Il y avait, je me rappelle plus quand j'étais petit, il y avait un gardien aussi qui s'amusait à les tirer, mais je n'ai plus son nom en tête en Belgique.
Philippe Van de Waal.
Il les tirait lui-même.
Ouais, ouais, il tirait.
C'est vrai que c'est toujours impressionnant ça.
Est-ce que Bodard n'a pas.
Il a déjà tiré, je me rappelle, dans des séances de tir au but, mais je ne pense pas que sur. Dans un
pénalty. Gilbert ou.
Oui, Gilbert. Gilbert. Mais Philippe Van de Waal, ça c'est sûr qu'il a tiré des pénaltys, ça c'est vrai.
Et puis il y avait.
Chilavert.
José Luis. Et puis Rogério Ceni, le gardien de but du Sao Paulo, qui lui marquait, je crois, encore plus à l'aise sur coup franc que sur pénalty.
Chilavert aussi.
Chilavert aussi, ouais. C'est vrai que c'est toujours sympa. Il y avait le Mexicain qui, lui, avait carrément joué une mi-temps dans le champ, comme il s'appelle.
Campos.
Jorge Campos. C'était Jorge.
Connu pour ça, mais il avait des
Campos.
Ah, ouais. Magnifique maillot. Umbro, pour ne pas les citer.
C'est ça.
Multicouleur, magnifique.
Ça, c'était World Cup 94.
Si je me... 98 aussi.
Ouais. 98 aussi, ouais. Passons à un autre match, Henri. Tu vas retrouver le sourire, sans doute, là. 5-1 pour Anderlecht, c'était face à OHL. Un match, qu'est-ce qu'on peut en dire, que finalement la filière danoise c'est plutôt une bonne filière, en tout cas cette semaine, triplé de Dreyer.
Je vais être honnête, au début de saison, je me demandais ce que Dreyer apportait au Sporting. Maintenant, il amène des buts et pas n'importe quel.
6 buts en 4 matchs.
Mais, donc il a fait un exploit aussi. Ce samedi, c'est de marquer 3 buts depuis l'extérieur du rectangle. Ça n'était plus arrivé en Europe depuis je ne sais pas combien d'années.
Mais surtout à Anderlecht, d'habitude, c'était du point de pénalty qui marquait. Donc.
Non, Gérald, il ratait les pénaltys, il y a toute une période.
Oui, mais avant ça, il marquait des pénaltys cadeaux.
On avait bien compris que c'était...
ça reste un traumatisme d'enfance. Hein. Sautes, c'était des plongeons olympiques, hein, à un moment.
Parlons de dimanche, de samedi.
C'est une belle victoire, après 3 fois 2-2 contre OHL, oui.
C'est ça, 5-1. Le score est impressionnant.
Ouais, ouais. Et...
Pourtant, ils prennent un goal.
Magnifique.
Malgré le
grand
gardien international danois.
Danois.
Ou ancien champion d'Angleterre avec Leicester. Je me demande vraiment...
Son bedonnant gardien.
Je ne suis pas sûr qu'il va gagner des points pour Anderlecht.
Non, mais
il va peut-être pas en coûter, mais il ne va pas en gagner.
Il est sans doute plus dans la forme de sa vie, c'est vrai. Il prend un but qui est imparable. Hein, la frappe de Misao est sublime.
Même son jeu au pied qui avait été vanté n'est pas...
Mais pas au niveau encore.
En tout cas, il n'est pas dans la sélection pour le match de demain à la Louvière.
Bon.
Non, mais ça, c'est une stratégie.
Il faut bien faire jouer le deuxième. Hein.
Sinon, Anderlecht était consistant. Ils prennent un goal, ils n'ont pas paniqué. Ils égalisent très vite. Et puis, je pense que Rochelle n'était pas dedans...
Ouais, il y a des matchs où on est un peu moins dedans.
Ça fait longtemps qu'Anderlecht n'a pas gagné avec plus d'un goal d'écart.
Ouais.
Et je pense qu'après le samedi, dans le dimanche plutôt précédent, qui a quand même laissé des traces, je pense que pendant la semaine, ils ont dû ruminer sur le fait de mener 2-0 à la mi-temps et de se faire remonter 3-2. Je pense que c'est...
En combien, rappelle-moi, quoi, 10 minutes, 15 minutes? Non, je demande.
Par qui? Qui était l'adversaire? J'ai un blanc. Pardon, un rouge. En tout cas. Vas-y, pardon.
Non, je te relève. Hein. C'était important de gagner, d'être convaincant, je pense, pour pas que le doute s'installe. Et puis aussi le fait, mathématiquement, de perdre 2 fois de suite et pas. C'est pas top, quoi. Donc, cette victoire était importante, je trouve.
Ouais.
Moi, j'ai pas bien compris, pour être honnête. Hein. J'étais pas en Belgique, mais j'ai pas tout suivi dans les médias. Je n'ai pas compris la crisette qui s'en est suivie en Anderlecht après le match. Alors, certes, ils perdent contre le Standard, mais enfin, bon, ils jouent en principe 2 à 4 fois par an contre le Standard. Donc, il y a toujours des victoires dans
la...
Certes, ils sont. C'est un match qu'ils doivent gagner absolument et que ça n'a pas de sens quand tu mènes 0-2 à la mi-temps de te prendre 3-2. Je suis d'accord. Mais. Cette équipe d'Anderlecht me semble, sur papier, même quand on les voit, c'est l'équipe la plus forte qu'Anderlecht ait eue ces 5 dernières années.
Mais clairement.
Loin.
Je pense que c'est un problème de coaching. En tout cas, c'est le coach qui est sur les réseaux sociaux, qui est dans le viseur des supporters. Oui. Parce qu'il y a eu Genk, où ils sont à 11-10, ils mènent, je crois que c'est 2-1. ils prennent un goal à la dernière minute alors que le Genk est à 10. Et on se demande où est le coach dans cette histoire. Parce que le coach est... André Gam a beaucoup de points et il n'a pas été convaincant dans les premiers matchs de championnat parce que le système de jeu n'était pas en place et le public est exigeant, ils veulent du football champagne.
Moi, je serais le public Anderlecht. Je me dis, il n'y a plus une chance d'avoir une équipe compétitive comme ça depuis, je ne me rappelle plus, la dernière fois qu'ils ont allé depuis 2017, je crois. Mais... C'est 2017, ils n'ont plus une équipe aussi compétitive, aussi belle, avec des noms, avec quand même une balance.
Les deux doublements aussi, position.
Et ces gens ne vont pas, pendant que tous les autres vont se fatiguer en Europe, eux, ils vont être frais, absolument frais. Donc,
On va voir comment il va gérer le vestiaire aussi. Parce qu'il a quand même des deux l'année, des gens qui ont un peu de bagage, qui ne sont pas venus là pour faire de la figuration. Mais il va devoir quand même. Il y a les Verscaron qui reviennent. La Chimérou, etc. Je pense que...
Il va falloir gérer...
Mais il va falloir gérer quand même les égos de chacun. Ouais. Parce qu'il n'a que... Il a intérêt à se qualifier en Coupe de Belgique, parce que sinon ça va être compliqué, je pense.
Oui, c'est vrai qu'il va falloir donner des minutes à tout le monde. T'as raison, même si...
Parce que le coaching, c'est pas uniquement le jour de match.
Oui, ouais, il faut gérer un vestiaire et
la gestion du groupe pendant toute la saison.
Oui.
Je pense que ce qui ressort pour l'instant du début de championnat, c'est que c'est le coach le moins... compétitif.
On va arrêter de parler de début de championnat quand même, parce que je vous rappelle que cette saison... On est quasiment à la moitié.
Première partie de championnat.
Première partie, oui, puisqu'on a 16 équipes, donc on a 30 matchs en tout et pour tout. On en est à 12, donc on aura dans 3 journées, on aura terminé la phase aller. Anderlecht, malgré tout, occupe une solide et une belle deuxième place.
Et l'écart s'est creusé avec tout le reste. Hein.
Et l'écart, oui, ils ont
24
points, voilà, 4 points de retard sur l'Union. L'Union qui a fait encore une semaine assez, assez intéressante.
Ils n'ont que 2 défaites. Hein, je veux dire. Ils ont une défaite à Clessin la semaine passée, par hasard.
Par hasard.
Et puis une défaite contre l'Union au premier match de championnat.
Oui, c'est vrai que Anderlecht a...
Donc sur papier, le parcours est convaincant.
Ouais. On pouvait difficilement attendre mieux, je trouve, d'eux. Encore une fois, un peu comme de comparer les deux équipes, mais ils ont des courbes, elles ont toutes deux des courbes qui sont assez similaires et deux grands noms qui ont fait des saisons très décevantes. Et c'est vrai que chacune, avec ses qualités et chacune à son niveau, pour l'instant, réalise de bons.
Anderlecht a mis vraiment le moyen de ses ambitions. Mmh. Ça, c'est certain, au niveau des joueurs, et clairement. J'ai vu une série de matchs cette année, même si le niveau n'est pas celui attendu par les supporters, c'est quand même beaucoup plus chatoyant. Hein.
Ouais.
C'est plus agréable. J'étais, je crois, 3-4 fois, j'allais dire, au Parc Astrid. Hein, l'année passée, on s'ennuyait, c'était vraiment poussif. Là, je trouve que le niveau de jeu, vraiment, a monté d'un niveau. Hein.
Oui.
Tu prends.
On termine parce que il faut bien en parler du club. C'était pas un bon match, hein, le club contre l'Antwerp. Mais finalement, on a eu les 3 points.
Les deux derniers champions.
Ouais.
Les deux derniers champions qui en ont plein les pattes avec leur mercato pas tout à fait réussi, mais voilà, Bruges à l'arrache, à l'envie. Manard a quand même parler aux troupes jeudi avant le match à Lugano, ça s'est senti sur le terrain et dans les couloirs on entend et on dit surtout aussi que c'est pas Ronnie Deyla qui a fait les équipes les deux derniers matchs, mais au-dessus, et c'est une coutume à Bruges déjà du même du temps de Clément Prudhomme que ça se faisait, qu'il y avait des discussions avec le coach. Et apparemment ça a réussi. Tu as Casper Nielsen qui a joué ses matchs. Tu as Balanta qui a joué à Lugano et qui a marqué aussi. Donc, il a joué 70 minutes en un an presque. Et c'était un joueur clé du match. Donc, voilà, le malaise à Bruges, voilà, certains joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Et pour une fois, je ne vais même pas citer Van Aken qui, lui, fait bizarrement ses matchs cette année.
Oui, c'est vrai. Il était présent pour donner la victoire.
La victoire, des têtes. Il est au four et au moulin.
Je suis assez confiant pour Bruges. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent que s'améliorer. Il ne faut pas oublier.
Ah oui, tu sais difficilement faire pire.
Non, mais oui, enfin, ils sont toujours dans la course. L'histoire a montré les 2-3 dernières années, et au moins, c'est que il faut certaines. Enfin, c'est bien de partir tôt, mais clairement, il faut gérer le pic de forme. Alors, c'est toujours extrêmement difficile à gérer parce qu'on dit oui, mais voilà, c'est pas grave, on aura le pic de forme plus tard et puis le pic de forme n'arrive peut-être jamais. Ou on dit par exemple, j'entends à l'Union, on dit oui, mais attention, on est de nouveau en forme trop tôt et comme les deux dernières années, ça va tomber. Mais, donc c'est extrêmement compliqué. Mais Bruges, j'ai vraiment le sentiment, moi, qu'avec cette manière un peu, voilà, un peu décevante de jouer, mais avec le noyau qu'ils ont, ils peuvent clairement faire un rush en première partie.
Mais il faut être dans les 6, hein.
Ouais, il faut être dans les 6.
Ils le sont pour l'instant.
Il faut être dans les 6.
Comme le standard va revenir.
Être dans les 6, ils seront dans les 6.
Je prends aussi.
Mais tu as un souci en défense. Spiller a beaucoup de talent, il est bon, mais la défense centrale, ça va pas, ils se prennent des buts à volonté.
Ouais.
Et ça, c'est là où le bas blesse.
C'est rare, hein, chez Bruges.
Et Thiago est quand même en dessous. Il n'y a pas de niveau. Hein.
Non. Enfin, en tout cas...
Mais écoute, hier, Je trouve que pour un attaquant hier, quand tu es entré au jeu, que tu dois marquer aussi, tu te positionnes parfaitement, tu fais un très bon contrôle de la poitrine, et au lieu de tirer comme un débile,
oui.
Il a cette clairvoyance, il voit Van Aken à 3 mètres de lui qui est tout à fait seul, il donne un ballon parfait, et Van Aken n'a plus qu'à la pousser dedans. Donc, certes, il n'a pas marqué, mais big up pour son geste.
C'est marrant parce que j'ai une autre analyse, enfin la fin de l'analyse est la même, je trouvais que c'était pas du tout un bon... Moi je pense qu'il loupe son contrôle de la poitrine, mais par contre, il a la présence d'esprit, comme tu le dis, de se dire « je peux rien faire de mieux ». Que dos au but, avec un ballon qui m'échappe un peu, de la glisser en retrait pour Van Aken qui marque le but, mais il avait fait la tête aussi avant où il fait une tête sans aucune consistance, aucune force, mais bon, ben voilà, au moins t'as raison, il a eu le bon geste.
Il marque un Jougla, il marque un goal.
Ouais, Jougla a mis un but, c'est
exceptionnel comme
but. C'est ça, il peut la tenter 20 fois.
C'est un buteur qui peut marquer.
Il jongle de l'arrière et puis il se retourne.
Et puis il se retourne, et c'est même pas vraiment un ciseau retourné comme on en a l'habitude, c'est un petit coup de cheville, enfin une flexion de la cheville qui est. Étonnant, exceptionnel. Ouais.
Tu vois ce joueur-là, par exemple, il doit encore éclore, hein, Bruges.
Oui, mais il a été blessé pendant longtemps.
Ouais. Ouais, mais donc si ce gars, alors je suis d'accord, ça va pas résoudre tes soucis défensifs que tu dis, hein, et ajuste. Ouais. Mais si ce gars-là éclore, potentiellement pendant l'année, pendant au fur et à mesure de l'année, il sera peut-être la star au moment du pic de forme. Hein.
Est-ce que Buchanan...
Oui, mais après le problème de Jougla, pour moi, Jougla, c'est un numéro 9 dans un vieux 4-4-2. Ouais. Et là, tu joues avec 3 attaquants de pointe, et donc il doit porter l'attaque centrale à lui tout seul, et pour moi il n'a pas les épaules pour faire ça, tandis qu'en 4-4-2, il a un pivot près de lui ou autour de lui qui va le décaler, qui va lui permettre de justement être la meilleure version de lui-même, et ça il n'a pas. Et je me demande justement, est-ce qu'un duo Thiago-Jougla pourrait pas donner quelque chose avec 2 attaquants? Et après la question, est-ce que tu mets un 10 derrière, 5 milieux, 3... Enfin, il y a plusieurs animations qui sont encore possibles, mais voilà, Jougla, oui, c'est un énorme talent, il vient de Barcelone, il a joué à Barcelone, hein, faut pas oublier. Donc c'est quand même pas des manchots qui sortent de
La Masia.
La Masia.
Moi, c'est Buchanan que j'aime beaucoup, et je me demande si, parce qu'on avait dit, il a donc été replacé back droit et voilà, tu parlais des soucis défensifs. Est-ce que le fait de pas d'avoir un joueur dont c'est pas la formation initiale à ce poste-là, est-ce qu'au bout, sur le long terme en tout cas, est-ce que ça pose pas problème?
Pas à cette position-là, mais tu as besoin d'un leader en défense centrale
et
qui va diriger ses troupes, et tu l'as pas. Et Mechel, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui, c'est un clubman et tout ce que tu veux,
c'est pas suffisant.
Il n'a pas le niveau pour être au top de Belgique, titulaire, leader d'une défense. Et s'il devait l'être, ça fait déjà longtemps qu'il le serait.
Mais il y a Boyata.
Passons.
Boyata, tu le mets au marché du midi. Hein.
on en finit donc avec cette page, longue page Jupiler Pro League. On vous rappelle le top 6 actuel, l'Union, Anderlecht, la Gantoise, le Cercle de Bruges, Genk, et le Club de Bruges, viennent ensuite l'Antwerp et le Standard de Steve, 8e. Cette semaine, place à la coupe, quelques mots cet intermède, donc, qui va être agréable. Tu faisais remarquer à juste titre, Steve, que ça tombait le 1er novembre. Ouais, c'était une occasion en famille.
Pour des raisons totalement privées, parce que je me suis dit, tiens, 1er novembre, je ne me rappelle pas que les autres années soient comme ça. Il y a des matchs l'après-midi et je me suis posé la question, tiens, est-ce que je n'irais pas moi-même me déplacer quelque part pour aller voir un match un jour férié si je n'ai pas grand-chose à faire? Je trouve l'idée à l'anglaise, c'est ça que je disais en antenne, assez sympathique, d'autant plus que la Coupe de Belgique, c'est plutôt sympa parce que, bon, en principe. C'était des grands contre des petits. Ce qui peut être chouette, c'est qu'on sait qu'il peut toujours y avoir des surprises. Donc, Il y a un aspect féerie, magie de foot d'autrefois qui est quand même toujours très sympa. Dans
c'est vrai. C'est... On replonge un petit peu dans nos souvenirs.
Et tu ne vas pas à Standard Harelbeek.
Je n'ai rien exclu.
Justement,
pas,
oui.
Je ne pense pas qu'il y a de. J'ai pas regardé toutes les affiches, nous avouer, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de compétitions qu'on ne suit pas toujours. Il y a pas de grand. Il y a pas d'affiche du tout, hein, je pense.
C'est impossible.
Open Stand.
C'est ça. Ouais.
Non, écoute, de ce que j'ai la liste sous les yeux.
C'est des grands contre des petits. Donc,
avec... Et les petits contre des petits.
Et on se pose toujours la question des.
Ouais, il y a le Berscott contre le club.
Tout à fait, mercredi soir.
Voilà. Oui, ça c'est peut-être pas si évident. Que
je vais du côté du Kiel.
Ah oui.
Bon, eh ben, ça va être un milieu de semaine.
C'est sur papier, c'est sur
agréable,
papier.
Oui.
Mais je trouve que la Ligue n'a pas réussi à faire de cette Coupe de Belgique un truc.
C'est difficile actuellement. J'ai l'impression dans quel pays, à part la FA Cup, hein, à part la.
Et encore la France. La FA Cup par rapport à il y a 20 ans.
C'est vrai qu'on.
Était déjà clairement un peu. C'est les Ligues européennes qui ont un peu tué ça.
Ouais, tout ça, c'est.
En France, ça marche. Parce que tu as déjà par ville, tu as un grand club, mais tu as tous les petits clubs qui gravitent autour. Et quand tu as un club de la banlieue de Nantes, par exemple, tu as l'aide du FC Nantes qui va céder son stade ou louer son stade à un prix très démocratique. Et ce petit club va drainer 15, 20 000 personnes parce que tu as, j'en sais rien, tu as Lens, parce que tu as Lens qui vient jouer. Carquefou a un stade encore en l'occurrence, mais vraiment, je parle des tout petits clubs. Qui arrive à ce stade de la compétition et qui accueille une Ligue 1 ou une Ligue 2 ou un club de tradition. Et voilà, il y avait
des. Excellent club, Carquefou. Blaise, si tu nous écoutes, ça doit te faire quelques bons souvenirs.
Mais je crois qu'ils n'ont pas arrêté la Coupe de la Ligue.
Si, ils ont arrêté la Coupe de la Ligue qui était vraiment là, redondante.
Mais là, par définition, tu n'avais que les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 qui participaient.
C'était que le football professionnel.
Ouais, ça n'avait pas tellement d'intérêt.
C'est du sponsor mythique de cette Coupe de la Ligue, Lyon aussi.
Oui, pour rugir de plaisir. Eh bien, je suis le roi de la transition, hein. Voilà, puisqu'on va passer tout de suite à la Minute Sportimize. Alex, ce week-end se jouait le Classico, et au cours de ce Classico, une des deux équipes a arboré un maillot particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Eh bien oui, le Barça a activé son sponsor Spotify pour la troisième fois avec une action complètement spéciale lors d'un Classico. On l'avait vu l'année passée, il y avait Drake qui s'était invité sur le maillot, il y a Rosalia. Et cette année, c'est les Rolling Stones qu'on a vu sur le maillot Blaugrana. Donc, il y avait cette mythique langue Rolling Stones qui a été dévoilée la semaine dernière. Et tout cela cadre vraiment dans un programme à 360 degrés marketing du Barça pour la sortie du nouvel album des Rolling Stones, Hackney Diamonds. Et justement, il y a eu ce maillot qui a été produit à 1899 exemplaires, vendu à 399 € pièce. Donc normalement, un maillot, c'est entre 90 et 140. Ici, on est déjà à près de 400 €. 1899 exemplaires, c'est l'année de fondation du Barça. Donc il y a vraiment un petit clin d'œil sympathique au club. Et ils avaient même 11 maillots dédicacés par les joueurs et floqués au nom du joueur qui étaient vendus 3 000 € également.
Wow.
Donc c'est du big business, c'est créé aussi une rareté pour les supporters qui s'arrachent le maillot. Et objectivement, il est quand même très réussi aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a dans les boutiques du Barça, où est-ce qu'on a mis l'album des Rolling Stones toute la semaine et le jour du match, il y a eu un tifo dans le stade. Ouais. Les Rolling Stones ont été invités. Il y avait de la musique, évidemment, dans le stade aussi, de la promotion sur le LED. Donc, tu avais vraiment une action très, très large du Barça. Et on se demande, mais qu'est-ce que ça rapporte ? Donc, il y a l'aspect financier avec ces maillots qui a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a également tout le merchandising. Donc, il y avait des sweatshirts, des t-shirts, des polos, des casquettes aux couleurs du Barça et des Rolling Stones. Ça a été vendu, donc tu as à nouveau un apport financier. Mais surtout sur Spotify, il y a eu 40 millions d'écoutes sur Spotify. C'est pas forcément que grâce à l'activation du Barça, mais c'est énorme. Il y a eu 25 millions de vues sur le contenu digital du Barça, ce qui est entre 10, 12, 14% en plus que d'habitude. Donc oui, cette action vivait vraiment. Et surtout pendant le match, il y a eu 10 fois plus de recherches sur les Rolling Stones, sur Google. Car il y a eu cette activation justement, donc pour faire connaître les Rolling Stones auprès d'un jeune public, ça a bien fonctionné. Et il n'y a pas que ça non plus. parce que on a d'un côté le Barça, de l'autre côté les Rolling Stones, donc c'est pas forcément deux produits qu'on associe directement, mais force est de constater que ce test fonctionne depuis 2 ans et on ramène des fans de foot dans la musique et surtout des fans de la musique dans le foot.
Ouais, c'était une belle initiative sur laquelle un joueur, ou plutôt un community manager peut-être, a rebondi de manière assez intelligente, puisque je vous rappelle que le héros de ce match, c'est Jude Bellingham. Et Jude, comme vous le savez, c'est le titre d'une chanson mythique du Real Madrid des Rolling Stones, puisque les deux, autant il y a le classico Barça-Real, mais il y avait le classico Rolling Stones-Beatles. Et Jude est donc Hey Jude, une chanson des Beatles. Et le community manager, celui qui s'occupe en tout cas du compte de Jude Bellingham, a mis une formidable image avec la pochette mythique de l'album Abbey Road où on voit les 4 Beatles traverser la rue. Et là, il y a Valverde, Bellingham, Tchouaméni et Vinicius qui traversent la rue. Et Tchouaméni a retweeté en écrivant « Like a Belling Stone ». Donc, petit pic aux Rolling Stones. C'était très sympa. Les Rolling Stones sortent leur album. Et sachez que le 2, c'est le tout dernier titre « Now and Then ». Des Beatles qui sort, une bande qui avait été retrouvée de John Lennon, sur laquelle les 3 autres Beatles avaient enregistré des parties il y a quasiment 30 ans, mais c'était pas suffisamment de bonne qualité, et donc il semblerait qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de fausse voix, hein, mais c'est simplement, ça a été amélioré grâce à des procédés technologiques, et donc c'est un morceau propre qui devrait sortir, donc 60 ans après encore, ils se font eux aussi la compétition, comme le Barça et le Real. C'est bien les histoires au long cours dans la musique et dans le sport aussi. Hein.
Moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir... Il y avait un tifo aussi.
Ouais, il était magnifique.
Ils avaient bien fait ça, ouais, un tifo. Et alors, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait Mick Jagger qui était... Je ne sais plus qui Richard c'était à côté de lui, je ne sais plus très bien, mais il y avait Mick Jagger qui était là et qui était là en train d'admirer, impressionner le tifo qui était juste devant lui avec l'effigie de son groupe. Je trouvais que ça donnait la combinaison de... J'étais surpris parce que je ne connaissais pas tout ce que tu viens de dire, je ne connaissais pas ce qu'il y avait en dessous, mais j'étais très impressionné par cette combinaison classico entre deux club mythique avec certainement le groupe mythique actif le plus impressionnant, le plus emblématique de la planète.
Ouais, bravo, c'est une belle association. On se demande qui ils auront l'an prochain, s'il y avait Drake, les Stones.
Peut-être Queen, peut-être les Beatles.
Va savoir. Ouais. Grand Jojo.
On le garde.
Vous le gardez ? Bon, bah, c'est très bien.
On va faire pareil, hein, pour être rigolo. Match de carnaval au Sporting.
Un duo entre Freddie Mercury et le Grand Jojo, c'est ça ?
Un duo virtuel.
Ouais, Freddie Mercury avait chanté Barcelona.
C'est vrai. Écoutez, on arrive au bout de cette émission déjà. Je jette un œil, mais j'ai l'impression que le classement du Ballon d'Or n'a pas encore évolué. On est toujours bloqué à la 11e place. Sachez, par exemple, que Mohamed Salah a fini 11e, Lewandowski 12e, Jude Bellingham, dont on parlait, 18e. 17e, c'est l'excellent joueur de Naples, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je sais que je vais faire une faute. Kvaratskhelia, voilà. 19e, Harry Kane. 21e, Antoine Griezmann. On va voir. Hein, un dernier pronostic. A priori, on devra avoir quoi ? Messi, Haaland, Mbappé, peut-être quand même marquer 3 buts en finale du mondial, parce que ça va être quand même meilleur buteur du mondial.
Mais il n'a pas gagné.
Il n'a pas gagné, non, mais... Mais...
Parce que c'est un peu ça l'idée, c'est que s'il avait gagné,
ah oui, il aurait été incontestable.
Il a montré encore, en
faisant le même match, quoi.
Il a montré encore ce week-end qu'il n'avait pas encore le comportement mature.
Non, ça c'est vrai que c'est
une telle distinction.
Non, il faut savoir s'arrêter à un certain moment au lieu de chambrer les pauvres les supporters de Brest, dont on pouvait comprendre la frustration après un si bon match. Un si bon match, un match dont ont été privés les spectateurs du Stade Vélodrome, malheureusement. Ça a terni le week-end. Il y a eu un beau classique, c'était un derby de Manchester qui était à sens unique. On a de la peine, enfin, en tout cas moi j'ai de la peine pour les supporters et pour Manchester United qui n'en finit pas de s'enfoncer tandis qu'ils voient leurs rivaux eux exceller et faire de mieux en mieux chaque semaine. Eh bien, on verra ce qu'il en sera la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent lundi soir, une excellente semaine. Voilà, c'est les... la lumière s'éteigne. Merci Henri, merci Steve, merci Alex, et merci bonne semaine à vous tous.
Au revoir.